Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le spectacle va commencer. Le spectacle d'un homme qui, voulant devenir l'auteur de son destin, en devient la victime, et pour l'éternité. Œdipe Roi de Sophocle est une pièce qui montre la vanité de savoir, sans louer l'ignorance, qui décrit comment le pouvoir n'exclut pas la faiblesse, et rappelle que se crever les yeux n'empêche pas toujours de continuer à voir. Allez, en route sur les chemins de la philosophie, la parole est à Jean Cocteau.
Regarde, spectateur. Remonter à bloc, de telle sorte que le ressort se déroule avec lenteur tout le long d'une vie humaine, une des plus parfaites machines construites par les dieux infernaux pour l'anéantissement mathématique d'un mortel.
Œdipe, roi de ce pays, qui est aussi le nôtre, regarde, nous voici tous agenouillés au pied de tes autels, jeunes et vieux, certains à peine assurés sur leurs jambes, d'autres ployant sous le poids des années. Moi, je suis le prêtre de Zeus. Thèbes se noie, Thèbes se meurt, ses graines pourrissent dans son sol, ses troupeaux et ses femmes avortent. La peste horrible nous malmène de ses flèches de feu. La vie quitte la cité de Cadmos. Nos morts emplissent les enfers de leurs lamentations et de leurs cris. Œdipe, nous savons que tu n'es pas un dieu, mais nous savons aussi qu'en chaque circonstance, en chaque vicissitude de la vie, à chaque fléau envoyé par la divinité, tu fus le seul à pouvoir nous aider. Tu as sauvé Thèbes. Tu l'as délivrée du tribut exigé par l'horrible chanteuse. Nous n'avons rien pu pour toi. Tu l'as vaincue par tes propres moyens, car tu avais l'appui d'un dieu. Chacun de nous en est certain. Eh bien, une fois de plus, nous t'implorons. Aide-nous. Sauve-nous. Grâce à ce dieu qui t'a aidé, ou à quelque mortel.
Bonjour Marie-Joséphine Verlings.
Bonjour Adèle Van Rett.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie.
Merci.
Vous êtes maître de conférences en histoire grecque à l'Université Paris-Nanterre et l'auteur d'une excellente présentation de la pièce Œdipe Roi en Garnier Flammarion, dont je recommande la lecture dans une traduction de Daniel Loaiza. Aidez-nous. Enfin, je reprends les mots du prêtre qui s'adresse à Œdipe, mais je m'adresse à vous, Marie-Joséphine Verlings, parce que quand on entend le début de cette pièce, on sent qu'on a raté quelque chose. Il y fait référence à une histoire d'Œdipe que nous ne connaissons pas au début de la pièce. Quelle est-elle ?
Oui, c'est le talent ici de Sophocle de commencer au moment où l'histoire est presque finie et de nous raconter quelle est cette histoire. Donc on commence au moment où Œdipe est roi de Thèbes, après avoir épousé Jocaste, délivré la ville de Thèbes du fléau de la Sphinx. Et Œdipe est en réalité, sans que personne ne le sache encore, le fils de Jocaste. Il a donc épousé sa mère après avoir tué son père. Et une peste s'abat sur la ville de Thèbes en châtiment de cette souillure, puisque Œdipe a tué le roi Laios et le meurtrier du roi Laios occupe le trône de Thèbes.
Mais alors là, c'est paradoxal parce que vous venez à la fois de nous révéler l'intrigue et la fin pour qu'on puisse comprendre la pièce.
Oui, exactement. Mais c'est le ressort d'ailleurs du tragique du personnage d'Œdipe dans cette pièce, telle qu'elle est construite par Sophocle, c'est qu'en réalité, tout le monde est au courant de l'histoire d'Œdipe au moment où il commence, et lui ignore. Et toute la pièce est la reconnaissance progressive, la répétition progressive de cette vie jusqu'au moment de l'ouverture de la pièce.
Donc la mise en scène et le drame est fidèle à l'existence même d'Œdipe. C'est-à-dire
voilà.
Que là, il y a un redoublement de ce que lui-même, ce par quoi il est traversé.
La pièce est une quête de connaissance, une quête de savoir, qui est déjà réalisée au moment où la pièce s'ouvre.
Alors, un mot, vous dites Œdipe, je dis Œdipe. qui a raison. Comment faut-il dire ?
Oui, je crois que les deux prononciations sont reconnues, sont entendues. En réalité, en grec, le mot c'est oïdipous, hein, donc ouais. Voilà. Et la racine donc pousse le pied, et la racine de la première partie du mot fait référence en principe à ce pied enflé qui est la marque d'Édipe, puisqu'Édipe a été exposé après sa naissance, et ses pieds ont été liés, et donc ça a fait enfler ses pieds. Donc il porte le nom, la marque de son exposition à la naissance.
Vous dites qu'en grec c'est oïdipous, on y a le terme oïda dans oïdipous, qui veut dire à la fois avoir vu et savoir.
Effectivement, il y a un jeu aussi, on peut lire dans ce mot un jeu sur la racine du verbe savoir, hein, qui est effectivement oïda, c'est je sais pour avoir vu. C'est-à-dire que c'est un savoir qui est construit par la vision et par l'enquête visuelle. Et ce qui effectivement est une ironie chez Édipe, qui ne voit pas, qui ne comprend pas qui il est et qui finit par s'aveugler au moment où il sait, où il voit qui il est.
Alors comment ça se passe pour le contexte même de la pièce ? On est au 5e siècle avant Jésus-Christ quand Sophocle l'écrit, c'est-à-dire que c'est un contemporain de Socrate. Est-ce qu'il est connu à ce moment-là ? Est-ce que le personnage d'Œdipe est connu ?
Alors, à la fois Sophocle est connu, hein. Sophocle fait partie de l'élite de la cité d'Athènes, il participe à la vie politique, à la vie religieuse de sa cité, et par ailleurs c'est une pièce c'est une pièce de la maturité de Sophocle. Sophocle a déjà composé, présenté un certain nombre de tragédies aux représentations à Athènes, il a été déjà récompensé, donc c'est un auteur connu, c'est un auteur à succès à ce moment-là, et par ailleurs il a déjà représenté des pièces tirées de ce mythe des Labdacides, puisque en fait Édipe Roi est une pièce qui a été représentée après l'Antigone, hein, qui en réalité est un épisode postérieur dans le mythe. Voilà, donc Sophocle est un auteur vraiment connu et apprécié des Athéniens. Par ailleurs, le mythe d'Édipe, c'est un mythe qui est effectivement un mythe qui a inspiré énormément d'auteurs tragiques au 5e siècle à Athènes, et que le public connaît très bien en effet. Donc quand vous dites on ne connaît pas l'histoire au moment où la tragédie s'ouvre, si.
Tout le monde la connaît,
cette histoire.
Alors, quelle est la valeur ajoutée de cette pièce en particulier ?
La valeur ajoutée, c'est précisément, il me semble... Alors, il y a plusieurs éléments qui permettent de comprendre quel est le talent et la particularité de Sophocle dans cette pièce. D'abord, la première, je pense que c'est construire la pièce sur la quête d'un savoir et d'une réalité qui s'est déjà déroulée. Encore une fois, l'intrigue de la pièce de Sophocle, c'est pas raconter le mythe dans l'ordre. Hein. Il y a beaucoup de pièces de théâtre qui se présentent comme le récit de la vie du héros. Et les péripéties sont les étapes successives de la vie du héros. Ici, c'est pas du tout le cas. Avec Édipe Roi, on a un Édipe statique qui est à Thèbes et qui cherche à comprendre qui il est et qui va se voir se dérouler devant ses yeux le récit de sa vie.
Récit de sa vie qu'on va apprendre et découvrir ensemble, Marie-Joséphine Verlings. Voici un autre extrait. Alors cette fois-ci, avant d'entendre l'extrait de la pièce d'Édipe Roi lui-même, un petit détour par Aristote, puisqu'Aristote, dans sa poétique, définit ce qu'est une bonne tragédie selon lui, et il prend l'exemple directement d'Édipe Roi. Écoutez.
Le revirement de situation est un renversement où le cours des événements se trouve inversé selon un rapport de vraisemblance ou de nécessité. Ainsi, dans Édipe Roi, le messager arrive en croyant réjouir Édipe et le délivrer de sa peur au sujet de sa mère. Mais en lui révélant sa véritable identité, il produit l'effet inverse. La reconnaissance est un renversement où l'on passe, comme son nom l'indique, de l'ignorance à la prise de connaissance, révélant ainsi une relation de parenté ou aboutissant à un sentiment de haine entre des personnages dont le sort, heureux ou malheureux, semblait scellé. La reconnaissance la plus réussie est celle qui a lieu en même temps qu'un revirement de situation, comme celle qu'on a dans Édipe Roi.
Terrible est le savoir quand ce savoir est inutile. Je le savais, mais je l'ai oublié. Mieux eût valu ne pas venir.
Mais que veux-tu dire ? Pourquoi regrettes-tu d'être venu ?
Laisse-moi repartir. Cela vaut mieux pour tous les deux, crois-moi.
Que dis-tu ? Si tu aimes la cité qui t'a nourri, tu dois lui dire la vérité.
Tu parles à tort et à travers, Édipe. Puissais-je ne pas en faire autant ?
Non, Tirésias. Si tu sais quelque chose, ne nous fuis pas. Révèle-nous la vérité. Tous, nous t'en supplions.
Vous êtes si loin du vrai. Ne m'oblige pas à provoquer mon désastre et le tien.
Quoi ? Tu sais la vérité et tu refuses de la dire ? Ne vois-tu pas que c'est trahir ta cité ?
Je vais éviter ton malheur et le mien. Inutile de me harceler. Je ne parlerai pas.
Vieillard perfide et entêté, qui mettrait en fureur jusqu'aux pierres. Tu refuses de parler.
Tu m'accuses d'être entêté, mais tu l'es plus encore que moi.
Mais comment ne pas s'irriter du mépris que tu as pour ta ville ?
Ce qui doit s'accomplir, s'accomplira tout seul, que je parle ou que je me taise.
Si tout doit s'accomplir, pourquoi ne pas le dire ?
Non. Hurle et crie à ta guise. Je ne parlerai pas. Je vis avec la vérité.
La vérité ? Et d'où la tiendrais-tu ? Sûrement pas de ta science.
Non, je la tiens de toi, qui me force à parler.
Et à dire de telles horreurs ? Répète-les, que je sois sûr.
Une fois ne te suffit donc pas. Tu tiens à m'éprouver ?
Je veux être certain. Répète ce que tu as dit.
Je dis que tu es l'assassin de Laïos.
Toi, tu vis dans la nuit. Nous tous qui voyons la lumière. Tu ne peux nous atteindre.
Ce n'est pas à moi de t'atteindre. Apollon saura le faire bien mieux que moi. Tu me reproches d'être aveugle. Mais toi dont les yeux voient, tu ne vois rien de ta misère, ni du désastre de ta vie. Tu ne vois pas sous quel toit tu habites, ni dans quel lit tu couches. Tu ignores de qui tu es né. Tu ignores que les tiens te maudissent sur terre et aux enfers. Oui, la malédiction de ton père, de ta mère, va te bannir de ce pays. Aujourd'hui, tu vois la lumière. Demain, tu verras la nuit. Et tes cris résonneront partout. Ils rempliront le Citeron quand tu sauras en quel lit fatal tu as jeté l'encre de ton destin. Et tu verras des malheurs indicibles fondre sur toi et tes enfants.
Cette tirade qui glace le sang, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h13, nous parlons d'Œdipe, roi, aujourd'hui de Sophocle, dans le cadre de cette série d'émissions sur le destin. Peut-on se libérer de son destin ? Peut-on le choisir ? Ou bien celui-ci nous est-il imposé ? C'est le sens de cette pièce. Œdipe a voulu conjurer ce qu'on lui avait prédit, et finalement il s'en retrouvera la première victime. Dans le dialogue que l'on vient d'entendre, Marie-Joséphine Verlings, Tirésias est effrayant par le savoir qu'il possède et qu'il veut, d'abord, dont il veut protéger Œdipe, qu'il va finir par révéler ce qu'il en est. On a tout le nœud de la pièce, à savoir, tu ne vois pas ce qu'il y a devant tes yeux, il ne suffit pas de regarder pour voir, et le savoir parfois est absolument impuissant.
Oui, exactement. Vous dites Tirésias est effrayant, il est aussi effrayé. Et je crois qu'il y a dans cette voix tout à fait vraiment caverneuse et profonde, il y a aussi toute la frayeur de Tirésias qui sait que la vérité va être révélée.
Et je précise, c'est la voix de Jean Levray dans l'adaptation.
Et que cette vérité va être révélée et que contre cette révélation, il est impuissant et qu'il va déclencher la catastrophe finale de cette famille, de la famille d'Œdipe.
Alors, qui est Tirésias ?
Alors, Tirésias, c'est le devin de Thèbes. C'est un des devins les plus connus de la mythologie grecque avec le fameux Calchas. Tirésias, c'est un devin c'est très intéressant parce que d'abord, le devin a une position tout à fait privilégiée, une position de savoir, une position de connaissance, une position de pouvoir aussi, puisque le devin est celui qui est la sorte d'intermédiaire entre la divinité et les hommes. Le devin, c'est celui à qui les dieux ont permis de voir et de connaître ce que les hommes ne sont pas capables de voir ni de connaître. Donc, il va transmettre le savoir détenu par les dieux. Alors, Tirésias, lui, a une histoire d'ailleurs qui le met dans une position assez intéressante, ici dans une position il détient ce pouvoir de connaître, c'est les dieux lui-même qui lui ont donné ce pouvoir de connaître, c'est lui donc qui refuse ici de révéler à Œdipe qui il est et ce qu'il sait.
Et pourquoi le refuse-t-il ?
Il le refuse. D'abord, il faut bien voir cette opposition, cette violence ici, cette opposition violente entre Œdipe et Tirésias. Œdipe est dans la position du roi qui exige, qui qui va exiger une connaissance. Et Tirésias, lui, est ce devin qui va refuser de l'avouer sous la contrainte ici à Édipe.
Donc la raison de son refus uniquement parce que Oedipe lui demande ou est-ce parce qu'il est effrayé par le contenu de ce qu'il
il
a révélé?
Il est effrayé, bien sûr, c'est ce que je vous disais pour commencer. Il est effrayé par le contenu de ce qu'il a révélé, tout à fait.
Vous dites que Tirésias est un devin donc qui transmet le savoir détenu par les dieux. Dans l'extrait qui est ouvert cette émission, le prêtre dit à Oedipe, un dieu veille sur toi ou te vient en aide et te vient en aide et c'est grâce à lui que tu as pu nous sauver une première fois. Peux-tu faire encore appel à lui pour qu'il vienne te sauver une seconde fois? Être protégé par un dieu, est-ce que c'est une manière de garantir son destin? Et est-ce que finalement on pourrait lire l'aventure qui arrive à Oedipe comme étant une manière de conjurer son propre destin en voulant se retourner contre les dieux?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, le prêtre, au début de la pièce, s'adresse à Édipe parce qu'Édipe a réussi à sauver la ville d'un premier fléau qui était celui qu'imposait la Sphinx. Donc, effectivement, le Sphinx menaçait de mort ceux qui n'arrivaient pas à résoudre une énigme. D'ailleurs, cette énigme, peut-être, on en parlera un peu plus tard.
Dites-nous.
Cette énigme est très intéressante du point de vue, justement, de la maîtrise du destin et du savoir, puisque l'énigme portait précisément sur la définition de l'homme. La question du Sphinx était de savoir quel est l'être qui, au début de sa vie, marche sur quatre pieds, au milieu de sa vie sur deux pieds et à la fin de sa vie sur trois pieds. Et Édipe a été le seul à dire il s'agit de l'homme qui, au début, en tant qu'enfant, marche à quatre pattes, puis en tant qu'homme fait et adulte, marche sur ses deux pieds, puis en tant que vieillard, a besoin de s'appuyer sur une canne et donc à trois pieds, en quelque sorte, pour marcher. Donc c'est très intéressant parce que au début de l'histoire, au début du mythe, Édipe apparaît du côté précisément du savoir et du côté de la maîtrise qui lui donne le pouvoir. Puisque cette façon qu'il a de connaître la réponse de l'énigme du Sphinx lui permet de débarrasser la ville de Thèbes de ce fléau, de prendre ensuite le pouvoir à Thèbes et donc d'apparaître au début de la pièce comme le recours, comme celui qui va le sauveur, le roi, cette figure du roi protecteur de son peuple qui va pouvoir lui venir en aide et qui va lui apporter le secours dont il a besoin. Donc ça c'est un premier point très important à propos de cette énigme. Donc il y a cette figure chez Édipe du roi qui, par sa connaissance supérieure à celle de son peuple et à celle des autres, va apporter la paix et le calme et va délivrer la ville de Thèbes d'un fléau. Mais en même temps, dans cette connaissance d'Édipe, évidemment, Édipe est du côté de celui qui cherche à connaître, qui veut savoir et qui veut, par le savoir et la connaissance, maîtriser sa vie. Et c'est tout le point de départ, finalement, du drame d'Édipe, c'est que quand il était enfant à la cour de Corinthe, donc recueilli par le roi Polybe et la reine Mérope de Corinthe, Édipe, jeune garçon, a été traité d'enfant trouvé par un de ses camarades de jeu. Et ce qui a mis un doute à son esprit, et il est allé consulter l'oracle de Delphes pour savoir qui étaient vraiment son père et sa mère, puisqu'on l'avait accusé d'être un enfant trouvé. Et précisément, l'oracle, au lieu de lui répondre, lui dit « Eh bien, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. » Ce qui précipite à ce moment-là, la connaissance de son destin, précipite à ce moment-là la fuite d'Édipe loin de Corinthe et la réalisation du destin. Donc, ce qui est très intéressant, c'est parce qu'Édipe sait quelque chose qu'il va réaliser son destin, tuer son père et épouser sa mère.
Donc, le savoir qui, d'un côté, lui a permis de sauver Thèbes, est-ce qu'il va le condamner de l'autre, individuellement?
Une sorte de savoir. Et le problème, précisément, c'est qu'il a réussi à répondre à l'énigme de la Sphinx, mais il n'a pas réussi à répondre complètement à l'énigme que lui posait l'oracle.
Ce savoir-là, pourtant, reste à savoir, justement, si de qui il vient, déjà. C'est-à-dire que ce savoir, vous dites, c'est l'oracle de Delphes qui lui donne. On pourrait très bien dire aussi que s'il n'avait jamais rien su, il aurait agi de la même façon. C'est-à-dire qu'on lui dit de quoi est fait son destin. Est-ce que l'ignorance de son destin n'aurait pas conduit aux mêmes actes?
Alors, l'ignorance de son destin ne l'aurait peut-être pas conduit à fuir la cour de Corinthe, à fuir celui qu'il pensait être son père et celle qu'il pensait être sa mère, par crainte de tuer l'un et d'épouser l'autre. Et ce qui est intéressant dans le mythe, et je pense que ça rejoindra quelque chose dont on parlera sans doute de la particularité du héros Édipe chez Sophocle, ce qui est intéressant, c'est que précisément, c'est la connaissance d'une partie de son destin qui permet à l'homme, d'assumer pleinement sa liberté d'acte et de réaliser complètement son destin. C'est-à-dire que c'est parce qu'il connaît une partie de son destin, il sait qu'il tuera son père et qu'il épousera sa mère, qu'on lui prédit qu'il tuera son père et qu'il épousera sa mère, qu'il s'enfuit de Corinthe et qu'il va précisément réaliser ce destin qu'il connaît, mais sans le connaître vraiment, puisqu'il ne sait pas qui est son père et qui est sa mère.
Donc est-ce que la morale, si tant est qu'il y ait une morale qui n'est pas forcément moralisatrice de ce texte, consisterait à dire qu'il mieux vaut ne pas savoir, ne pas connaître son destin?
Ou alors, je ne sais pas si c'est une morale qu'il faudrait tirer de ce mythe, mais en tout cas, il y a, c'est sûr, une réflexion sur le savoir imparfait et le savoir incomplet qui est celui des hommes. Et je ne pense pas qu'il y ait je pense qu'il y a chez Sophocle une réflexion sur ce savoir qui est un savoir fini, qui est un savoir limité et que qui est celui que les hommes auxquels les hommes peuvent prétendre.
On se pose la question à chaque ligne en lisant la pièce. On se demande à chaque fois, mais est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir ou est-ce que savoir peut nous permettre aussi d'être plus libre dans une perspective, dans une certaine perspective, disons spinoziste, la connaissance des causes qui nous déterminent est la seule manière peut-être d'être libre. Savoir de quoi nous sommes faits et où nous allons. Alors ici, on a l'impression que c'est l'inverse.
Oui, mais d'une certaine manière, effectivement, vous avez raison de mêler savoir et liberté. Et d'une certaine manière, c'est le savoir qu'a Édipe qui lui permet d'assumer pleinement la responsabilité de ses actes et la liberté de ses actes.
La liberté ?
Oui, parce que c'est assez bien. Je trouve que dans le film de Pasolini, par exemple, qui est adapté de cette pièce, c'est assez bien rendu cette tension entre à la fois la liberté et le fait que le héros est entraîné dans un destin qui le dépasse, mais ce choix de prendre la route de Thèbes et non pas de ne pas retourner à Corinthe est le point de départ de la réalisation du destin d'Édipe, et c'est un acte libre d'Édipe.
Alors, pour continuer à réfléchir sur cette question du savoir et comment ce savoir est soit libérateur, soit au contraire oppresseur dans le texte, voici un détour par Michel Foucault, qui écrit sur Édipe Roy et qui présente un Édipe qui finalement serait en proie non seulement au savoir, mais aussi au pouvoir. N'oublions pas qu'Édipe est roi, et peut-être que ce savoir-là, soit est un fardeau, soit au contraire est une aide pour exercer ce pouvoir. Écoutez Foucault.
J'aimerais montrer qu'Édipe, dans ce mécanisme de jeu de réponse entre les bergers et les dieux, n'est pas celui qui ne savait pas, mais au contraire, celui qui savait trop. Celui qui unissait son savoir et son pouvoir d'une certaine manière condamnable. Le titre même de la tragédie de Sophocle est intéressant. Édipe, c'est Édipe roi. Édipe est l'homme du pouvoir, l'homme qui exerce un certain pouvoir. Et il est caractéristique que le titre de la pièce de Sophocle ne soit pas Édipe l'incestueux, ni Édipe le meurtrier de son père, mais Édipe roi. Que signifie la royauté d'Édipe? Nous pouvons remarquer l'importance de la thématique du pouvoir tout au long de la pièce. Pendant toute celle-ci, ce qui est en question est essentiellement le pouvoir d'Édipe, et c'est cela qui fait qu'il se sent menacé.
Le film de Pasolini, Marie-Joséphine Werlings, en voici la bande originale, inoubliable pour quiconque a vu le film. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, il est 10h24. Nous venons d'entendre un texte de Michel Foucault interprété par le comédien Yvan Moran. Le texte est tiré de La vérité, les formes juridiques qu'on trouve dans les 10 écrits de Foucault. Quelle est votre interprétation, Marie-Joséphine Werlings, de cette hypothèse de Foucault selon laquelle finalement le texte d'Oedipe propose d'abord une réflexion sur le pouvoir, savoir et pouvoir, plus que savoir et liberté ou autre?
Ah, tout à fait d'accord, effectivement. Au cœur de la tragédie de Sophocle, il y a cette réflexion sur le pouvoir qui est tout à fait portée par le titre, hein, Édipe roi, exactement. D'ailleurs, c'est une réflexion qui me venait en écoutant à nouveau le prologue de la pièce tout à l'heure. Mmh. La réflexion sur le pouvoir est portée par l'ouverture et la fin de la pièce. On a l'ouverture, un roi puissant, sauveur, à qui on vient en recours, que l'on vient en recours supplier de délivrer la cité du fléau qui s'est abattu sur elle. Et à la fin de la pièce, on a ce roi qui a dégringolé de son trône, qui est devenu le plus misérable des hommes et qui s'enfuit de la cité. Donc on a une réflexion, précisément, sur cette instabilité et sur cette inconstance de la fortune à travers la chute d'un roi très puissant. Donc ça, c'était une réflexion qui me venait tout à l'heure. Mais effectivement, sur les rapports entre le savoir et le pouvoir dans Édipe roi, c'est effectivement une réflexion qui est au cœur de la pièce de Sophocle. Alors, Édipe sait trop. Je dirais peut-être qu'Édipe...
C'est ce que dit Foucault. Hein. Ouais, le problème d'Édipe, c'est pas qu'il sait pas assez, c'est qu'il sait trop.
Alors, il sait trop, oui. C'est-à-dire que, dès l'origine, cette consultation de l'oracle qui lui dit « Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère », il en sait trop. C'est quelque chose qui, du coup, va le mettre en position. C'est un pouvoir ici qui va l'écraser et qui va le faire réaliser son destin. C'est un savoir qui va l'écraser. Mais en réalité, je dirais aussi, et ça rejoint des réflexions de Foucault dans d'autres textes, que Édipe sait mal. Parce qu'il a un savoir qui est un savoir fragmentaire, qui est un savoir partiel, et qui est donc un savoir qui est dangereux de ce point de vue-là. En réalité, dans la pièce Édipe roi, Édipe cherche du début à la fin à savoir la fin de l'histoire, le fin mot de l'histoire, à savoir qui a tué Laios.
Il enquête, c'est une enquête.
C'est une enquête, la pièce est une enquête. Donc il y a une pièce du puzzle qui lui manque, une pièce du puzzle de la connaissance de soi-même qui lui manque. Donc il sait trop, sans doute, mais il sait mal, il sait imparfaitement et il sait incomplètement. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça Foucault, puisqu'on parle de Foucault le montre bien dans l'étude, dans les leçons, les réflexions qu'il a menées sur cette pièce de Sophocle. Ce qui est intéressant, c'est que chacun des personnages détient une partie du savoir. Et en particulier une partie du savoir que Édipe ne connaît pas. Et toute la pièce va consister pour Édipe à extorquer ce savoir à Tirésias, à Créon et Tirésias, à Jocaste, aux messagers venant de Corinthe et aux messagers, aux bergers qu'on est allé chercher dans les champs parce que lui est le seul à savoir qui a tué Laios puisque c'est le seul témoin oculaire de ce meurtre. Et il va arriver à la fin et c'est sa venue qui va finir de compléter le puzzle de la connaissance de soi d'Édipe. Donc c'est, effectivement, il sait trop, mais il sait mal. Et il n'a pas reconstitué, enfin il a besoin, toute la pièce est la reconstitution de ce puzzle pour arriver à un savoir complet.
Pour qu'on puisse avancer ensemble, il faut qu'on définisse les personnages dont on parle depuis le début de la pièce. Donc Jocaste, c'est sa mère et épouse.
Voilà.
Laios
est le père d'Édipe, qui est l'ancien roi de Thèbes, époux de Jocaste, et que Édipe a tué au moment où Édipe est allé consulter l'oracle de Delphes pour savoir de qui il était le fils, et où il reçoit cette réponse, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Il prend non plus la route de Corinthe, mais la route de Thèbes, donc en remontant vers le nord de la Grèce, et il rencontre sur un chemin, à une croisée des chemins, évidemment tout dans le mythe a un sens ici, ouais. Les chemins, il y a une croisée des chemins, il aurait pu prendre un autre chemin, il prend celui sur lequel venait Laios en sens inverse et il tue Laios après une altercation puisque
sans savoir que c'est lui,
sans savoir bien entendu, en toute ignorance, il tue son père et il arrive ensuite à Thèbes. Sur son chemin, il arrive à Thèbes où il délivre Thèbes du Sphinx et épouse Jocaste, sans savoir que c'est sa mère.
Polybe. C'est son père adoptif.
Alors, Polybe, c'est le roi de Corinthe qui est son père adoptif, et Mérope, la mère la mère adoptive d'Édipe, reine de Corinthe.
Et enfin, Créon.
Alors, Créon, c'est le frère de Jocaste, donc le beau-frère et oncle d'Édipe, et qui d'ailleurs exercera la régence à Thèbes après le départ d'Édipe.
Donc, on voit que tous ont un rôle de pouvoir, en réalité.
tous ont un rôle de pouvoir. Et là, on parlait aussi d'un autre personnage qui avait une partie du savoir, une partie du puzzle de la connaissance. C'est un berger du palais de Laios qui accompagnait Laios et qui a réussi à s'enfuir. Donc, qui est le seul témoin oraculaire du meurtre. C'est le seul à pouvoir dire qui a tué Laios vraiment. Et c'est un berger. Alors effectivement, chez Foucault, c'est très important parce qu'il montre comment le savoir populaire, le savoir du peuple, l'emporte finalement et permet de renverser quelquefois le savoir autoritaire du pouvoir royal ici chez Édipe. Mais c'est le dernier à arriver, c'est le seul qui a vu, c'est le seul qui sait, c'est le dernier à arriver et il ne le révèle que sous la menace.
Le personnage de Jocaste est très intéressant parce que c'est le personnage de cette femme mère qui passe toute la pièce jusqu'à ce qu'elle apprenne la révélation finale à dire à Œdipe, mais ne t'inquiète pas, enfin je veux dire, de toute façon, même si t'as épousé ta mère, c'est pas très grave. Je sais plus quelle est la phrase exacte, mais en gros, tous les hommes ont rêvé de coucher avec leur mère. C'est ça.
Effectivement,
hein,
il y a cette phrase.
Il y a une dédramatisation de la part de Jocaste qui est très étonnante.
Il y a cette phrase qui a était une révélation pour Freud. Effectivement, oui. C'est assez étonnant, mais il y a dans la pièce de Sophocle cette phrase de Jocaste, tous les hommes ont rêvé d'épouser leur mère.
Voilà, toi ne crains rien quant à cette union maternelle. Bien des mortels ont déjà couché en rêve avec leur mère. Allons, quand on n'en tient aucun compte, on jouit de l'existence la plus facile.
Alors, Jocaste,
vive le déni.
Jocaste est un personnage très intéressant, effectivement. N'oublions pas d'ailleurs que sur la scène athénienne, ça devait rajouter à la saveur de ce personnage, sur la scène athénienne, tous les personnages sont interprétés par des hommes. Hein, donc on a un homme ici qui joue une femme, qui joue Jocaste, qui joue une femme qui est aussi une mère, bref, donc on a une superposition des identités dans le personnage, dans l'acteur Jocaste, qui est assez intéressante pour cette pièce. Mais effectivement, Jocaste, alors vous dites, elle lui dit, mais si tu as épousé ta mère, non, elle lui dit... ne t'en fais pas de ces craintes d'épouser ta mère, c'est une crainte que tout homme a en lui, puisque tout homme a rêvé d'épouser sa mère. Et Jocaste, finalement, apparaît comme un personnage très ambigu, parce qu'il est très maternel. Hein. Sophocle a très bien réussi à rendre ce côté double. Elle est à la fois la femme, mais elle est toujours la mère aussi dans cette pièce. Elle le console, elle le rassure. Et effectivement, elle apparaît comme le personnage qui va se méfier des oracles. Et va dire à Édipe, bon, n'y croyons pas et profitons de la vie.
Allons, délivre-toi du souci dont tu parles. Écoute-moi et apprends donc que nul être mortel ne détient la moindre part de l'art divinatoire. En peu de mots, je vais t'en montrer des signes manifestes. Jadis parvint jusqu'à Laios un certain oracle. Je ne dirai pas de Phoibos en personne, mais de ses serviteurs. Le destin que le rejoindrait serait de périr par l'instant, par l'enfant issu de notre union. Or Laios, d'après la rumeur, ce sont des brigands étrangers qui l'abattent au croisement de trois chemins. Quant à l'enfant, trois jours ne nous séparaient pas de sa naissance, qui lui lie à les attaches de ses pieds, et puis le fait jeter par d'autres mains sur un sommet inaccessible. En l'occurrence, Apollon n'accomplit rien. Il ne fit pas de lui le meurtrier de son père, ni de Laios, qui craignait une telle horreur, la victime de son enfant. Voilà ce qu'avaient défini les paroles oraculaires. Mais toi, cesse de t'en soucier. Ce dont un dieu voudra user... lui-même saura sans mal le faire paraître.
Femme, ce que tu viens de dire m'épouvante et mon âme se glace.
Qu'as-tu ? Pourquoi te troubles-tu ainsi ?
Tu as bien dit que Laios fut tué au croisement de trois chemins.
Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on dit toujours.
Et où se trouve ce croisement ?
En Phocide, là où se rejoignent les routes de Daulis et de Delphes.
Il y a très longtemps de cela ?
Très longtemps, c'était un peu avant ton arrivée dans le pays.
Zeus, que veux-tu faire de moi ?
Mais qu'ai-je dit qui te bouleverse ainsi ?
Attends, ne me demande rien encore. Dis-moi, ce roi Laios, quel air avait-il et quel âge ?
Il était grand, ses cheveux commençaient à blanchir, tu lui ressembles un peu.
Malheureux, je me suis maudit moi-même sans le savoir.
Que dis-tu, ton visage fait peur à voir ?
Je tremble à l'idée que le devin n'ait vu trop clair. Un mot encore.
Tu m'effraies, mais questionne, et je te répondrai.
Laios voyageait-il avec une petite troupe ou une suite nombreuse comme un roi ?
Ils étaient 5 en tout, dont un héros. Laios était en char.
Oh, maintenant tout est clair. Mais qui vous a dit tout cela ?
serviteur, le seul survivant du massacre.
Vit-il toujours? Habite-t-il dans le palais?
Non. En revenant ici et en te voyant sur le trône, il m'a supplié de l'envoyer au champ pour garder les troupeaux le plus loin possible de Thèbes. J'ai accepté, c'était pourtant un serviteur loyal qui méritait un sort meilleur.
Peux-tu le convoquer ici en toute hâte?
Sûrement, mais que t'apprendra-t-il de plus?
Je crains d'en savoir trop déjà.
Qu'Œdipe apprend dans ce passage, Marie-Joséphine Werling, c'est qu'il n'a pas pu échapper à son destin que celui-ci, qu'il a été rattrapé. Il se présente quasiment comme une victime qui mène l'enquête, mais qui se découvre victime de ce qu'il redoutait le plus au monde. Signifie ici le terme de destin?
Et je réponds tout de suite à votre question, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est précisément le personnage de Jocaste qui commence à entamer la reconnaissance ici.
Mais on a l'impression que Jocaste, elle le sait un peu quand même. Quand on lit la pièce, on se demande s'il n'y a pas quand même une partie d'elle qui se doute de tout ça.
Effectivement.
Cette manière de dédramatiser, de dire mais non, pas du tout, et quand bien même ce serait pas grave, pour finalement, je dirais, elle voit
en
très bien
cas,
la différence.
En tout cas, c'est vraisemblablement la première, après Tirésias, c'est la première entre elle et Œdipe, c'est la première qui s'en rend compte.
Ouais.
Et vraisemblablement, à l'issue de ce dialogue, quand elle lui dit oui, non, mais de toute façon, il dira toujours qu'ils étaient plusieurs brigands, il y a cette affirmation que non, non, ça ne pourra pas être toi, quand bien même les dates coïncident et que c'est le même endroit que tu as, à ce même endroit que tu as tué quelqu'un, il y a une sorte de hargne à vouloir affirmer que ce
mais
n'est
c'est
pas
ça.
Possible que ce soit
Œdipe. C'est ça, c'est l'insistance qu'elle met à empêcher Œdipe d'en savoir plus laisse penser qu'elle n'est pas au clair avec elle-même.
Mais précisément, ce personnage est très, je trouve, très intéressant et très touchant dans son côté maternel et dans cette façon de reléguer un petit peu au second plan les croyances envers les oracles et elle est rattrapée effectivement par l'oracle. Voilà. Alors, pour revenir
le
à votre question...
Le sens du destin, on le trouve quelquefois dans le texte, on trouve sort, fortune, destinée. À quoi ça renvoie?
Oui, alors, effectivement, ça renvoie à l'idée que la vie des hommes est réglée par une... le déroulé de la vie des hommes est réglé et fixé et que les hommes ne peuvent pas en sortir que leur vie est fixée à leur naissance quelque part qu'ils vont dérouler leur vie C'est une notion vraiment compliquée dans la pensée grecque et surtout qui fait appel. On pourrait dire que ce sont les dieux qui ont fixé le destin des hommes. C'est en réalité un petit peu plus compliqué puisque on voit bien dans la tragédie grecque que les dieux eux-mêmes obéissent à un destin, à une autorité supérieure. Alors, dans la pensée grecque, il y a très souvent l'idée du fil. Et que la vie est un fil qui est déroulé, et que le destin, c'est ce fil qui se déroule tout au long de la vie jusqu'à ce que la moire coupe ce fil. Voilà. Donc il y a plusieurs termes pour désigner ce destin, il y a la moirée, il y a la tuquée, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut retenir cette idée-là, que l'homme déroule sa vie à partir de la naissance. Voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire, et ça c'est, je pense, très important pour Sophocle, ce qui ne veut pas dire que la liberté humaine et la liberté individuelle soient complètement annihilées de ce point de vue-là. On pourrait dire, si l'homme n'a qu'à suivre son destin, il n'a plus aucune liberté d'intervention, liberté d'action. Il me semble que précisément chez Sophocle, il y a une réflexion sur la liberté du héros et la liberté humaine. Et il y a les deux choses chez Sophocle. Il y a l'affirmation de la toute-puissance du Dieu, de la vérité, de la parole divine qui dit ce qui va se passer, de l'impossibilité de l'homme d'échapper aux vicissitudes du sort. Et Sophocle est le poète les héros qui passent d'un sort merveilleux à un sort catastrophique. Donc c'est vraiment le poète des vicissitudes humaines, mais en même temps, c'est le poète qui affirme une certaine liberté de l'homme, une certaine puissance de l'homme et une confiance en l'homme.
Difficile de l'avoir dans cette pièce. Quelle est la liberté d'Œdipe si ce n'est celle de se crever les yeux ?
Oui, effectivement. Mais alors, la liberté, il me semble, c'est ce sur quoi je revenais un petit peu au début de l'émission. Il me semble que la liberté, elle vient précisément du moment où, de la consultation de l'oracle et du choix qu'il fait de ne pas retourner à Corinthe, mais de prendre une autre route. Ce choix de la route, c'est celui d'Œdipe.
Et donc c'est une liberté qui va se retourner contre lui.
Exactement.
Donc c'est une difficile liberté, c'est-à-dire que là, c'est pas, la liberté n'en est pas une, la liberté est un piège que l'homme se tend
après,
lui-même.
Après, dans la pièce, les différents personnages viennent le mettre en garde et lui dire « ne cherche pas à savoir, tu veux enquêter, ne cherche pas à savoir ». Créons Tirésias d'abord dans la confrontation qu'on a entendue tout à l'heure, « ne cherche pas, n'enquête pas plus loin, ne convoque pas ce messager, ne l'entends pas, ne cherche pas à comprendre ». Et Œdipe insiste, c'est Œdipe qui cherche, c'est Œdipe qui veut, c'est Œdipe qui veut savoir. Et il y a, il me semble, au cœur de ce personnage, cette liberté-là.
Il y a un personnage ou plusieurs personnages que nous n'avons pas évoqués, Marie-Joséphine Verling, ce sont les dieux, très présents, Sophocle était très pieux, et les dieux jouent un rôle tout au long de la pièce. Je vous propose qu'on écoute un extrait du chœur, parce que le chœur vient ponctuer chaque moment de la pièce, et c'est comme un chant de respect pour les dieux et pour la destinée qui va accuser Œdipe d'avoir péché, on dirait en termes chrétiens, par démesure, c'est-à-dire par défi aux dieux, en voulant se réapproprier son destin. Écoutez.
Puisses-tu à jamais demeurer dans mon cœur aux saintes puretés ?
Guider mes actes et mes paroles, toi qui vis dans les splendeurs du ciel, fruit des entrailles de l'espace, fille de ton unique père, l'Olympe.
Toi qui ne dois rien aux mortels et qui veille éternellement.
Réceptacle du Dieu puissant qui ne vieillit jamais. L'orgueil enfante le tyran.
Celui qui s'enfreint ni mesure, se gonfle de pensées factices et gravit la pente d'orgueil. Choix bien vite au cœur de l'abîme, un abîme où ses pas s'épuisent.
Ô Dieu, ne brise pas l'effort de ceux qui veulent sauver Thèbes.
Ô Dieu, notre seul rempart.
Mais celui qui, perdu d'orgueil, dans ses actes et dans ses paroles, bafoue la justice et les dieux, consomme crime et sacrilège, et viole ce qu'on ne doit violer.
Qu'il soit frappé, châtié, brisé.
Sinon, comment garder la paix de l'âme?
Et comment te chanter, justice? Pourquoi me rendre désormais jusqu'au centre inviolé du monde, jusqu'au sanctuaire de l'impie, si les oracles nous abusent?
Zeus, souverain de l'univers.
Zeus, dieu de vérité.
N'accepte pas que de tels doutes mettent en cause ton pouvoir.
On conteste les vieux oracles.
On se détourne d'Apollon.
Et le respect des dieux s'en va.
Est-ce qu'on peut dire que Œdipe s'est fait punir pour avoir désobéi aux dieux?
Alors, vraisemblablement, effectivement, c'est tout à fait sûr, Œdipe rentre dans ce schéma qu'on appelle l'hubris. L'hubris.
La démesure.
La démesure, voilà. Alors, je pense qu'il faut se garder de penser ça en termes de péché, comme on peut parler de péché dans la tradition judéo-chrétienne. L'hubris, c'est ce sentiment de puissance et d'orgueil qui pousse un homme à sortir de sa condition. C'est-à-dire à s'arroger des pouvoirs ou des connaissances ou des actions qui sont de l'ordre, d'un autre ordre que celui de l'ordre humain, en particulier de l'ordre divin. À ce titre, vouloir trop savoir est une marque d'hubris. Savoir trop de choses est une marque d'hubris puisque le savoir de l'homme est limité. Le personnage de Tirésias dont on parlait tout à l'heure est lui-même un symbole de cette hubris. châtié par les dieux, puisque il est. Enfin, l'histoire de Tiridias, on n'en a pas parlé tout à l'heure quand on a présenté le personnage, mais est assez intéressante. C'est un personnage qui. C'est un Thébain qui, un jour, croisant sur son chemin deux serpents en train de copuler, les a frappés de son bâton, les a séparés, et en punition a été transformé en femme pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il recroise les mêmes serpents dans la même situation, et qu'il les frappe à nouveau, qu'il les sépare, et qu'il retrouve sa nature première d'homme. Et donc, il était le seul à avoir connu les deux natures, et donc, dans une querelle entre Zeus et Héra pour savoir qui de l'homme ou de la femme éprouvait le plus de plaisir sexuel, il a donné raison à Zeus.
Et il savait de quoi il parlait, puisqu'il avait été changé en femme.
Et voilà. Et donc, du coup, il a été puni de cécité. Enfin, c'est une des versions.
Ovid le raconte très bien dans les Métamorphoses.
Voilà.
Et on ne sait pas d'ailleurs si Héra ou Junon dans les Métamorphoses le punit parce qu'il a trahi le secret de la jouissance féminine, ou au contraire parce qu'elle-même est jalouse et que lui dit quelque chose qui n'est pas vrai.
Voilà, exactement. Et donc, il y a d'autres versions. Selon d'autres versions, il serait devenu aveugle parce qu'il aurait vu Athéna nue dans son bain. Athéna, qui est la déesse vierge par excellence, qui refuse le mariage et l'homme. Donc, effectivement, il a été puni pour ça. Donc, vous voyez que le savoir...
Elle a vu, donc le
savoir par la vue peut mettre l'homme dans une position, le sortir de sa condition humaine, lui donner un savoir qui est au-dessus de sa condition humaine. Et donc ici, Tiresias est vraiment le symbole de cette hubris qui a été punie par les dieux. Mais quand on parle de châtiment divin, il faut éviter de penser en termes de punition d'une faute ou d'un péché. Il faut souvent penser en termes de rétablissement d'un ordre. Et c'est plutôt comme ça, je pense, parce qu'on se libère de la valeur morale attachée au péché que nous avons dans notre tradition chrétienne. Et donc, du coup, c'est plutôt ça. L'hubris rompt un équilibre.
Parce que le cosmos, par l'hubris, se prend pour autre chose qu'il n'est.
Voilà. L'hubris rompt un équilibre du cosmos et la vengeance divine, le châtiment, va rétablir cet ordre, va remettre les choses à leur place et l'homme à sa place.
Donc Œdipe n'était pas protégé par un dieu comme on l'évoque au début de la pièce, au contraire finalement. Ou alors c'est là on en revient quand même à une forme de punition qui est peut-être dictée par la colère de la part du dieu plus que par la morale.
Alors effectivement, c'est intéressant parce que ça renvoie à un traitement particulier du personnage d'Œdipe par Sophocle. Dans le mythe d'Œdipe, en réalité, Œdipe tue son père, épouse sa mère, maudit ses enfants parce qu'il est l'héritier d'une malédiction qui remonte à son père, Laïos. Laïos aurait été maudit par le roi Pélops, dont il avait enlevé le jeune fils, et ce jeune homme était mort pendant leur fuite. Donc il y a dans le mythe à l'origine l'idée d'une malédiction qui va atteindre Œdipe comme un héritage finalement de la malédiction familiale. Chez Sophocle, il n'est jamais fait mention de cette malédiction antérieure dont hériterait Œdipe. Donc effectivement, vous avez raison, dans la pièce de Sophocle, il y a quelque chose du comportement individuel et du destin individuel d'Œdipe qui est en cause ici. Et ce n'est pas le châtiment d'une malédiction qui le dépasse, c'est un châtiment individuel et un destin individuel qu'il accomplit.
Il se punit lui-même, d'ailleurs à la fin de la pièce, exactement, lorsqu'il se crève les yeux, et il dit que s'il le pouvait, il aurait aimé se boucher les oreilles pour ne plus rien voir, ne plus rien entendre. Il ne parle pas de la voix, c'est assez intéressant qu'il garde la parole. Il veut plus voir, il veut plus entendre, mais il veut pouvoir continuer à parler. Et à la toute fin de la pièce, il parle de ses filles, à ses filles, qu'il voudrait sauver justement de cette malédiction qu'il traîne de génération en génération. Et on apprendra après, parce qu'il y a une suite à la pièce quand même, hein, qu'il va pouvoir s'échapper de Thèbes, guidé par sa fille qui n'est autre qu'Antigone.
Effectivement, à la fin, alors c'est une pièce magnifique, extraordinairement bien construite, parce que on n'a aucune action, on a juste une vérité révélée petit morceau par petit morceau, et en même temps, grâce aux analepses et aux prolepses, on a toute l'histoire de la famille.
C'est-à-dire
qui apparaît sur scène.
Et aux
voilà,
prévisions.
Exactement. Les sortes de flashbacks,
des
retours en arrière qui racontent la naissance d'Œdipe, etc. Toute l'histoire d'Œdipe jusqu'à l'ouverture de la pièce. Et puis les anticipations, en particulier la vision qu'Œdipe a de ses filles, privées d'un protecteur, privées d'un père, privées d'une famille, et qu'il aimerait pouvoir sauver de cette vie qui s'annonce maudite pour elle.
Et qui seront la riée de tous, hein, il leur dit bien, surtout ne vous mariez pas, de toute façon vous n'y arriverez pas parce que ce qui vient de se passer va vous vous contraint à l'isolement pour l'éternité.
Alors, à la fois, d'un point de vue, effectivement, d'un point de vue de réputation, être le fils de son frère, la fille de son frère, enfin bon, c'est une situation un petit peu compliquée, et en même temps, d'un point de vue, d'un point de vue social et culturel en Grèce, hein, une fille qui n'a pas de père, parce que qui est réellement le père d'Antigone c'est un père, c'est un frère, voilà, et il est banni de sa cité, il est chassé. Donc une fille qui n'a pas de père ou dont le père est un frère, c'est une situation où la fille n'est pas dotée, la fille n'est pas mariable. Donc en fait, ça renvoie, ce passage-là renvoie aussi à une situation concrète tout à fait spécifique de la fille immariable dans une société grecque.
Le mot de la fin reviendra à Créon qui dit à Œdipe, « Toi, renonce à tout maîtriser, ce que ta maîtrise a conquis ne t'a pas suivi jusqu'au bout. » C'est là finalement, alors si ce n'est la morale, du moins la conclusion, renonce à tout maîtriser, c'est-à-dire la quête du savoir exhaustif est vaine et s'est retournée contre toi.
Effectivement, effectivement. Et c'est une des ambiguïtés finalement de cette histoire d'Œdipe qui est que, effectivement, pour réaliser son destin, ça a été justement cette volonté de tout maîtriser qui l'a emporté.
Bon, c'est une tragédie par excellence, hein, c'est la définition de la tragédie selon Aristote. Bon, on va finir avec une chanson un peu plus joyeuse, Tom Lehrer, Oedipus Rex.
From the Bible to the popular song, there's one theme that we find right along. Of all ideals they hail as good, the most sublime is motherhood. There was a man, though, who it seems once carried this ideal to extremes. He loved his mother and she loved him, and yet his story is rather grim. There once lived a man named Oedipus Rex. You may have heard about his odd complex. His name appears in Freud's index, 'cause he loved his mother. His rivals used to say quite a bit that as a monarch he was most unfit, but still in all they had to admit that he loved his mother. Yes, he loved his mother like no other. His daughter was his sister and his son was his brother. One thing on which you can depend is he sure knew who a boy's best friend is. When he found what he had done, he tore his eyes out one by one. A tragic end to a loyal son who loved his mother. So be sweet and kind to mother, now and then have a chat. Buy her candy or some flowers or a brand new hat. But maybe you had better let it go at that. Or you may find yourself with a quite complex, complex, and you may end up like Oedipus. I'd rather marry a duck-billed platypus than end up like old Oedipus Rex.
Tom Lehrer, Oedipus Rex, un grand merci à vous, Marie-Joséphine Vernix, d'être venue me parler de Sophocle aujourd'hui.
Merci à vous.
Et d'Œdipe Roy, je renvoie à l'édition que vous proposez avec une présentation de votre plume en Garnier Flammarion et la traduction est de Daniel Loaiza. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité. Alors, quelle actualité de philosophie a retenu votre attention ?
Oui, alors effectivement, pas l'actualité d'Emmanuel Macron ou du hashtag Balance ton porc qui ont quand même rythmé ce week-end. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est un très beau recueil d'essais de Virginia Woolf qui a retenu mon attention. Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds, c'est son titre. Soit une manière de dire que les livres n'ont besoin que d'eux-mêmes et pas de philosophes pour être compris, repris, aimés ou détestés. Tout simplement lu. Et voilà la question essentielle posée par Virginia Woolf ici, dans ses textes écrits entre 1917 et 1940. Qu'est-ce que lire, plutôt que qu'est-ce que dire ou écrire ? Et voilà la manière essentielle de la poser, non pas en philosophe, à peine en écrivain, mais d'abord en lectrice. Et le mieux est donc d'écouter Virginia Woolf directement, en parler dans la seule archive d'elle de la BBC qui date du 29 avril 1937.
Words, English words, are full of echoes, memories. Associations, naturally. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, so many centuries.
Les mots anglais sont habités d'échos, de souvenirs, d'associations, naturellement. Telle est la thèse de Virginia Woolf dans le premier essai de ce recueil sur les mots, et c'est sa première leçon sur la lecture. Lire, c'est d'abord élucider l'essence, le fonctionnement, les propriétés des mots. Mais il s'agit d'y procéder sans manipuler les mots comme des objets, sans les juger, sans les dominer, mais en voyant ce qu'ils nous font eux, comment ils nous manipulent eux. Et c'est bien là la deuxième leçon de Virginia Woolf, comment ne pas juger les mots, mais se laisser porter par eux. À ces deux leçons, Virginia Woolf en ajoute une troisième, faire part de ses expériences au plus proche des textes pour les comparer, comme ce qu'elle fait quand elle lit une œuvre de Charles Dickens.
C'est ainsi que je m'appelais moi-même, Pip, et que tout le monde m'appela, Pip. La première impression que j'éprouvais de l'existence des choses extérieures semble m'être venue par une mémorable après-midi, froide, tirant vers le soir. À ce moment, je devinais que ce lieu glacé, envahi par les orties, était le cimetière, que ce grand désert plat au-delà du cimetière, entrecoupé de murailles et de fossés, se composait de marais, que cette petite ligne de plomb plus loin était la rivière, et que cette vaste étendue, plus éloignée encore, et d'où venait le vent, était la mer.
Quand Virginia Woolf lit Charles Dickens, elle fait cette expérience. Elle relit un auteur connu de son enfance et de poser cette question, lit-on toujours de la même manière? Entre la plongée immédiate dans les mots enfants et l'expérience esthétique et réfléchie de l'adulte, lequel de ses rapports au texte est le meilleur? Et ce qui se dessine au fur et à mesure des essais de Virginia Woolf, c'est la méthode qu'elle explore pour lire un livre. Comment doit-on lire un livre? C'est d'ailleurs le titre d'un des essais publiés ici. Ce qui se dessine, c'est ce projet qu'aucun philosophe n'avait entrepris avant elle, car ceux-là sont souvent du côté de l'écriture, de l'auteur, de l'utilité. Virginia Woolf, elle, en appelle à autre chose, et c'est une chose inédite, refuser de reprendre la main, refuser de reprendre la plume, le pouvoir, et laisser les mots nous mener comme un enfant face à Dickens ou face à Jane Austen.
Chère mademoiselle, je suis très contrariée d'apprendre qu'il y a eu dans ma conduite hier soir quelque chose qui n'a pas reçu votre approbation. Si j'ai eu le malheur de laisser croire que j'éprouvais un sentiment plus fort que celui qui était le mien, je vous en demande humblement pardon. Mon cœur est depuis longtemps engagé ailleurs. À votre demande, je vous rends donc vos lettres, ainsi que la mèche de cheveux que vous m'aviez offerte naguère si obligeamment. Je suis mademoiselle...
Je n'y comprends rien, Elinor. Nous étions les deux moitiés d'une même âme.
Quelle horrible bassesse!
Quand on lit Jane Austen, comment donc se laisser porter? Virginia Woolf était contre les critiques, les chroniqueurs, tous ceux qui indiquaient des règles à suivre. Mais comment parvenir à lire alors, à être actif tout en se laissant aller au livre? C'est une méthodologie inattendue, un paradoxe, savoir lire tout en s'abandonnant, en oubliant tout savoir ou en sachant que l'on ne sait pas. En cela, Virginia Woolf se fait peut-être philosophe, plus qu'aucun autre philosophe d'ailleurs sur la littérature, mais elle reste quand même, il faut le dire, toujours du côté des lecteurs, de ceux qui, sans eux, les philosophes et écrivain ne serait plus rien.
Merci Géraldine de nous parler de ce livre et de nous avoir fait entendre la voix de Virginia Woolf.
Et oui, l'archive inédite. Ouais. On mettra le lien de la BBC pour l'écouter en entier, le texte en entier.
À volonté. Donc rappelez-nous le titre de ce livre qui est génial d'ailleurs.
Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds. C'est paru aux éditions des Belles Lettres et c'est donc plein d'essais, d'articles, de critiques de Virginia Woolf à lire absolument.
Merci Géraldine. Votre chronique, elle, est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et j'en profite pour annoncer la parution du numéro de papier. France Culture Papier, vous le savez, les différentes émissions que vous pouvez entendre toute la journée, donnent lieu, trois fois par an, à la publication d'une revue qui s'appelle Papier, dans laquelle vous trouvez certaines retranscriptions d'émissions, mais aussi des textes inédits. C'est un très bel objet qui est en vente partout, en kiosque notamment. Et le thème de ce numéro est le nouveau. Pourquoi voulons-nous du nouveau? On y trouve beaucoup d'émissions, notamment certaines que nous avions consacrées à cette question. On avait commencé la semaine ainsi, Géraldine, souvenez-vous, l'année ainsi.
Avec Baudelaire.
Avec Baudelaire, notamment, on trouve le texte de Baudelaire et tant d'autres. France Culture Papier, à lire donc, disponible en kiosque. Merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission, David Pargamin, Marianne Chassor, Marie Aubert qui nous a aidés la semaine dernière, Géraldine Mosna-Savoie, bien sûr, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Alexandre Dang qui était à la prise de son aujourd'hui, Yvan Morane à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur le destin. Demain, prenez-vous en main, ce sera le conseil que vous donneront les stoïciens. Et ce sera Christelle Veillard, maître de conférence en philosophie antique à l'Université Paris-Nanterre, comme vous, Marie-Joséphine Verlings, n'est-ce pas, qui viendra nous en parler à ce micro. Pour écouter cette émission, rien de plus simple, vous le savez, vous vous rendez en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. Sur France Culture, il est 10h59. Midi, vous retrouverez la grande table d'Olivia Gesbert. Mais tout de suite, restez à l'écoute. C'est bientôt Florian Delorme pour Culture Monde.